Bienvenue à ce cinquième amphi de physique statistique. Cet amphi est consacré aux transitions de phase. Nous discuterons tout d'abord de l'effet des interactions entre particules, particulièrement dans le cas de la transition liquide-gaz. Puis nous aborderons le cas de la transition ferromagnétique. Puis nous généraliserons ces idées à d'autres systèmes en physique et au-delà. La matière existe sous différents états, solide, liquide, gaz, et on peut tracer des diagrammes de changement d'état. Par exemple, ici, un diagramme pression-température dans lequel on observe les zones d'existence de chacun des trois états. Ces trois zones sont séparées par des lignes de transition de phase tracées en rouge. Et puis, on a un état intermédiaire entre gaz et liquide qui s'appelle le fluide supercritique. On se doute que tout cela est lié aux interactions entre les particules. Ces interactions, on peut les décrire par un potentiel de Lennard-Jones entre molécules, avec à courte portée des interactions répulsives et à longue portée des interactions attractives. Qualitativement, on s'attend à ce que lorsque la température est élevée par rapport à la profondeur V0 du puits de potentiel, les molécules puissent s'échapper du puits de potentiel. Elles sont donc essentiellement libres et il s'agira de l'état gazeux. A l'inverse, si la température est basse, les molécules sont confinées dans le puits de potentiel et on est dans un état solide. Et puis pour une température intermédiaire, les molécules pourront s'échapper de leur puits de potentiel, mais avec difficulté. Cette analyse qualitative permet de comprendre l'existence des trois états caractéristiques de la matière, mais elle ne permet pas de décrire l'observation de transition brusque entre ces états. Regardons plus précisément la transition liquide-gaz. On considère une assemblée de n molécules de masse petit m à l'équilibre thermique à la température T. L'énergie de ce système dépend de la position et de la quantité de mouvement de chacune des molécules. On a d'une part, comme pour un gaz parfait, la somme des énergies cinétiques des molécules, mais on a de plus des interactions de paires entre molécules dépendant de la position de chacune des deux molécules. Et c'est ce terme d'interaction qui va jouer un rôle fondamental dans la compréhension des transitions de phase. On sait maintenant calculer la fonction de partition, grand Z, comme une intégrale du facteur de Boltzmann sur les positions et les quantités de mouvement de toutes les particules. Cette intégration fait par ailleurs intervenir le volume dans l'espace des phases H puissance 3 grand N et factoriel grand N lié à l'indiscernabilité des molécules. L'intégration sur les quantités de mouvement se fait comme dans le gaz parfait. Il s'agit d'intégrales indépendantes. On peut factoriser et on fait ainsi apparaître la longueur d'onde thermique à la puissance 3 grand N. Il reste en revanche une intégrale sur les positions, appelée grand Q, intégrale de configuration, qui est extrêmement difficile à calculer. On utilise une méthode de champ moyen qui consiste à remplacer la somme des interactions de paires par un potentiel moyen effectif pour chacune des molécules. On sait alors calculer l'intégrale de configuration puisqu'elle se factorise. Pour une molécule, on doit calculer une intégrale du facteur de Boltzmann exponentiel moins bêta V effectif sur toutes les positions de la molécule. Ce potentiel effectif, on va considérer qu'il est infini dans un volume exclu et qu'il a une valeur moyenne dans le reste du volume accessible aux molécules. C'est le sens de ce schéma indicatif. On sait alors calculer l'intégrale de configuration à l'aide du potentiel moyen et du volume exclu. On dispose alors de l'expression de la fonction de partition, et de là, on est capable d'écrire l'équation d'état en calculant la pression, qui, nous l'avions vu dans le cas du gaz parfait, s'exprime comme moins la dérivée de l'énergie libre par rapport au volume, l'énergie libre s'écrivant comme moins kt logarithme de la fonction de partition. Il en résulte l'expression suivante de la pression, qui fait apparaître le potentiel moyen et le volume exclu, que l'on peut encore écrire sous la forme usuelle de l'équation d'état de van der Waals. L'analyse microscopique, à l'aide du potentiel d'interaction de Lennard-Jones, permet de calculer la valeur du potentiel moyen et du volume exclu à travers les grandeurs microscopiques associées au potentiel de Lennard-Jones. On peut ainsi relier le volume exclu à la taille finie des molécules et le potentiel moyen aux forces attractives à longue portée. La transition liquide-gaz peut donc être étudiée macroscopiquement à l'aide de l'équation d'état de van der Waals. Sont tracés ici dans le diagramme PV les isothermes pour différentes températures. À température élevée, La dérivée de la pression par rapport au volume est petite, ce qui veut dire que le milieu est très compressible, c'est l'état gazeux. En revanche, à basse température, la dérivée de la pression par rapport au volume est élevée, faible compressibilité, c'est l'état liquide. Toutefois, on observe dans ce diagramme une zone pour laquelle la dérivée de la pression par rapport au volume est positive. Cela voudrait dire que le système augmenterait de volume lorsqu'on lui applique une pression. On peut montrer qu'un tel état est instable. On peut alors décrire le caractère brutal de la transition liquide-gaz, ce qui ne sera pas fait dans cet amphi. Nous allons maintenant considérer des systèmes physiques différents. Il s'agit de systèmes magnétiques qui ont été étudiés notamment par Pierre Curie au début du siècle dernier. Lorsqu'un tel système est soumis à un champ magnétique B, il apparaît une aimantation M qui peut être reliée au champ magnétique à travers une susceptibilité qui dépend de la température. Et on observe un comportement singulier à partir d'une température caractéristique appelée température de Curie. À haute température, le système est dit paramagnétique. À champ magnétique nul, l'aimantation est nulle. En revanche, à basse température, il peut apparaître une aimantation spontanée en l'absence de champ magnétique. Et si l'on trace la susceptibilité en fonction de la température, on observe une divergence au voisinage de la température de Curie. Nous allons maintenant faire une description microscopique de tels systèmes magnétiques. Ils sont constitués d'assemblées de moments magnétiques μi, d'intensité mu et d'orientation ui. La description quantique de ces moments magnétiques se fait à travers un spin quantifié. Il n'y a pas toutes les possibilités d'orientation du moment magnétique, mais seulement deux projetées sur le champ magnétique. Le moment magnétique, μi, s'écrira donc mu fois Si, où Si est égal à plus ou moins 1. En conséquence, l'énergie potentielle dans un champ magnétique, grand E égale moins mu scalaire B, peut s'écrire moins H Si, où H est égal à mu B. Il en a donc deux énergies possibles, moins H ou plus H. Considérons tout d'abord le cas où les spins sont indépendants. On va alors s'intéresser à la fonction de partition petit z pour un spin. C'est la somme, sur toutes les configurations possibles, de exponentielle moins bêta e, c'est-à-dire exponentielle bêta hs, où petit s peut valoir plus ou moins 1. Ainsi, petit z est égal à 2 cosinus hyperbolique de bêta h. En conséquence, l'aimantation moyenne par spin, c'est-à-dire grand M sur n fois mu, est donnée par la dérivée de log de petit z par rapport à bêta h, et m est ainsi égal à la tangente hyperbolique de bêta h. Voici tracé petit m en fonction de bêta h. On peut calculer la susceptibilité qui de t égale à n mu carré sur kt. C'est ce que l'on appelle la loi de Curie. On n'observe toutefois aucune divergence dans cette analyse. On est donc amené à s'intéresser à l'interaction entre les spins. Cette interaction a une origine quantique. C'est l'interaction dite d'échange associée à des phénomènes de répulsion coulombienne et au principe d'exclusion de Pauli. Quantitativement, l'énergie d'interaction entre deux spins peut s'écrire grand E égale moins J Si Sj, ce qui donne lieu donc à deux possibilités pour l'énergie, soit les spins sont alignés et l'énergie vaut moins J, soit les spins sont opposés et l'énergie vaut plus J. J est positif, ce qui tend à aligner les spins dans le même sens, et J est une fonction qui décroît très rapidement avec la distance entre les spins, c'est dire que l'on va pouvoir se restreindre aux interactions entre spins proches voisins, que l'on notera comme représenté sur la diapo. On aboutit ainsi au modèle d'Ising qui a été proposé au début des années 1920 par Ernst Ising, où l'énergie d'une assemblée de spins s'écrit comme la somme de deux termes, un terme associé à l'énergie des spins sous l'effet du champ magnétique, donc moins petit h fois Si, sommé sur tous les spins, et d'autre part, un terme d'interaction entre les spins, moins J, somme des SISJ pour les spins proches voisins. Je vous présente une simulation d'un modèle d'Ising à laquelle vous pouvez avoir accès sur le web. Il s'agit d'un système de taille n fois n avec des spins jaunes ou bleus dont la probabilité de basculement à chaque pas de temps est calculée par un tirage au sort avec une probabilité donnée par le facteur de Boltzmann dans lequel intervient l'énergie d'interaction entre un spin et ses proches voisins. Il est possible de faire varier la taille du système, la fréquence de basculement des spins et surtout la température. On observe ici le système à haute température. Les spins ont une probabilité égale d'être dans l'état jaune ou dans l'état bleu. Si j'abaisse la température, on observe l'apparition de domaines bleus est jaune, l'état bleu se met à envahir tout l'espace. Le système est complètement aimanté dans l'état bleu. Si maintenant je remonte la température, j'observe l'apparition de spin dans l'état opposé et pour une température suffisamment élevée, je retrouve les probabilités égales pour les deux états. On peut aussi faire une simulation avec un nombre de spin plus élevé. J'abaisse maintenant la température. Il apparaît des agrégats de spin jaune et des agrégats de spin bleu. Et si on laisse le système évoluer sur une durée suffisante, l'un des deux états va dominer. Nous avons pu observer dans la simulation un comportement moyen de l'assemblée de spin très différent en fonction de la température. À basse température, un des spins, les spins jaunes, domine. À température élevée, on a autant de spins jaunes que de spins bleus. Et puis on a aussi un comportement intermédiaire avec des agrégats de spins jaunes et bleus de toutes les tailles. Comme pour la transition liquide-gaz, c'est une méthode de champ moyen qui va nous permettre de comprendre le comportement de ces assemblées de spin. L'idée avait été proposée par Pierre Weiss au début du siècle dernier à travers la méthode dite de champ moléculaire. Elle consiste à dire qu'un spin, SI, est soumis au champ H externe et par ailleurs à l'interaction des spins voisins sous la forme J fois somme des SJ. L'idée de champ moyen consiste à remplacer la somme des SJ proches voisins comme l'aimantation moyenne de chaque spin, petit m, multiplié par le nombre de proches voisins, petit z. En conséquence, chaque spin est plongé en moyenne dans un champ H' égal à la somme de petit h et de JZM. Et l'on va pouvoir alors traiter le système comme une assemblée de composantes indépendantes soumises au champ H'. Mais l'étude des spins indépendants nous a montré que M était égal à tangente hyperbolique de bêta H. Ici, tangente hyperbolique de bêta H', c'est-à-dire tangente hyperbolique de bêta H plus JZM. Ainsi, cette équation fait apparaître petit m à la fois aux membres de gauche et aux membres de droite, et pour la résoudre, il faut une méthode dite autocohérente. Nous allons étudier le problème en champ magnétique nul. On doit alors résoudre l'équation M égale tangente hyperbolique de bêta JZM. On va le faire par une méthode graphique. On trace deux courbes en fonction de petit m, la diagonale et tangente bêta JZM. À haute température, ces deux courbes n'ont qu'un seul point d'interaction à M égale 0. En revanche, à basse température, on observe deux autres points d'intersection symétriques qui sont non nuls. On peut donc représenter sur un diagramme en fonction de la température les solutions petit m de cette équation et on a ainsi au-dessus d'une température critique TC qui vérifie KTC égale ZJ, une seule solution, M égale 0, et en dessous de la température critique, les deux solutions, et un développement limité de la tangente hyperbolique permet de montrer que M est en TC moins T au carré, en dessous de la température critique. Intéressons-nous aux fluctuations. On se place à B égale 0 dans une situation où, au départ, l'aimantation est nul. Puis, on considère une petite fluctuation M de T et on s'intéresse à l'évolution de cette fluctuation. On va écrire la dynamique de l'aimantation sous la forme M de T plus delta T égale tangente hyperbolique de bêta JZ M de T. Ceci, puisque petit m est petit, va pouvoir s'approximer par bêta JZ M de T, c'est-à-dire TC sur T M de T. Et ceci va nous permettre de distinguer deux situations. Si la température est au-dessus de la température critique, alors M de T plus delta T est plus petit que M de T. En conséquence, la fluctuation diminue. Tandis que si T est inférieur à la température critique, la fluctuation augmente. Et ainsi, il apparaît spontanément une aimantation en dessous de la température critique. Le voisinage du point critique est très intéressant. Les fluctuations sont alors très importantes. Sont représentées ici des images du champ de spin pour des températures proches du point critique. On fait apparaître une longueur caractéristique xi qui s'appelle la longueur de corrélation. Et on représente cette longueur de corrélation en fonction de la température. On observe qu'elle diverge au voisinage de la température critique. Au voisinage de la température critique, les détails microscopiques disparaissent. Il y a un phénomène d'invariance d'échelle avec des comportements universels et l'on peut montrer qu'il existe des classes d'universalité des transitions de phase. Ainsi, la transition liquide-gaz est parfaitement équivalente à la transition para-ferromagnétique. Je donnerai trois principales conclusions à cet amphi. Tout d'abord, dans ces phénomènes de transition de phase, on a une compétition entre des effets énergétiques et des effets anthropiques. À l'équilibre thermique, on doit minimiser l'énergie libre F égale E moins TS. Ainsi, à basse température, c'est l'énergie qui l'emporte, tandis qu'à haute température, c'est l'effet anthropique et donc le désordre qui l'emporte. Par ailleurs, les interactions jouent un rôle déterminant. Lorsque les interactions sont faibles, ce sont les propriétés individuelles qui dominent. En revanche, lorsque les interactions sont fortes, c'est un comportement collectif différent de celui des constituants élémentaires qui domine. Enfin, j'ai largement insisté sur les méthodes de champ moyen qui permettent de discuter quantitativement des transitions de phase. Je voudrais maintenant prolonger cet amphi à travers l'allusion à d'autres systèmes physiques. Ont été étudiés différents systèmes physiques, des cristaux liquides, des polymères, des mousses, des émulsions, pour lesquels Pierre-Gilles de Gennes a montré que les concepts de transition de phase s'appliquaient pleinement. Plus récemment, on a vu de nombreuses études de mouvements collectifs, assemblées de poissons, d'oiseaux, et des physiciens ont pu montrer qu'il était possible de tracer des diagrammes de phase des différents comportements en fonction de paramètres décrivant les interactions entre les agents individuels. Les concepts des transitions de phase s'appliquent aussi à des systèmes mécaniques tels que des assemblées d'oscillateurs harmoniques. Sur cette vidéo, vous voyez le phénomène de synchronisation des vibrations du pont du Millennium sous l'effet de la marche des piétons. Ces phénomènes seront étudiés dans le cadre du cours d'ouverture physique statistique des systèmes complexes au second semestre. Depuis une vingtaine d'années, on a vu aussi les concepts de la physique statistique être appliqués à des phénomènes dans le domaine des sciences sociales et de l'économie. On parle d'éconophysique et de sociophysique, par exemple pour la dynamique des opinions politiques ou encore pour les phénomènes de ségrégation urbaine. Cette année, Jean-Philippe Bouchaud fera un cours au Collège de France intitulé « De la physique statistique aux sciences sociales » portant précisément sur ces sujets. Et je signale pour ceux d'entre vous qui choisiront de continuer à étudier dans le cadre du département sciences, économie, gestion, finance, qu'il vous sera proposé un cours qui s'appelle « Économie des villes et des territoires » qui décrira en détail ce phénomène de ségrégation urbaine.